Jokes et blagues mis à part, Paul Taylor.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Une tranche de rire en VF et en VO, c'est ce qu'En sol majeur vous offre aujourd'hui. C'est la faute à Paul Taylor, comédien de stand-up qui jongle dans ses spectacles autant avec la langue de Molière que celle de Shakespeare. Une pinte de bière à la main, il tacle ses nouveaux coreligionnaires, les petits Frenchies sur leurs us et coutumes, la bise française, les banques françaises, la syntaxe française. Paul Taylor, qui se sent toujours britannique malgré son français parfait, n'a aucun lien de parenté avec « My Taylor is rich ». Mais il pose la question de l'identité sur la table. Et pour une fois, il n'y a pas mort d'homme. Anyway, après Franglais, premier spectacle, courez vite aux dernières représentations de So British ou presque. Les 16, 17, 18, 19, 20 juin à l'Européen, c'est à Paris. Et les 26 et 27 juin, c'est à London. How are you doing?
I'm doing great, how are you?
Paul Taylor, I'm doing well. Je suis un peu déçue, vous êtes venu sans votre pinte de bière.
Oui, ouais, en fait, je savais pas que c'était autorisé. Et en plus, c'est un peu tôt pour la bière.
C'est vrai. On va commencer avec un surfeur devenu chanteur, un certain Jack Johnson, avec une chanson intitulée Taylor.
Yes. Tiens,
qu'est-ce qui se cache derrière cette chanson?
Je suis devenu hyper fan de ce chanteur-là et il a une chanson qui s'appelle Taylor, qui est un prénom en fait aux États-Unis. Il est d'origine hawaïenne. Mm-hmm. Et dans la chanson, à un moment donné, on dirait qu'il dit Paul Taylor. Comme moi, je le dis en britannique. Forcément, c'est un américain, donc il a un accent différent.
Ouais.
Mais ce qu'il est en train de dire, c'est « pauvre Taylor ». Mais on a l'impression qu'il dit « Paul Taylor ». Donc c'est une des, évidemment, des chansons comme je l'aime beaucoup. Elle me fait rire.
Mais c'est donc un peu narcissique comme ça,
ouais.
Mais avec fun, quoi.
C'est ça.
Ça commence bien.
They say Taylor was a good girl, never want to be late, complain, express ideas in her brain. On the night shift, passing out the tickets, you're gonna have to pay her if you wanna park here. Well, mommy's little dancer is quite a little secret, walking on the streets now, never gonna keep it. It's quite an imposition, and now she's only wishing that she would have listened to the words they said. Just wanders around, unaffected by the winter winds, yeah. And she'll pretend that well, she's somewhere else, so far and clear, about 2,000 miles. Trick bit of batters on the window, but sunny silhouette won't let him in. And poor old Pete's got nothing 'cause he's been falling. And somehow sunny knows just where he's been. He thinks the singing on Sunday gonna save his soul. Now that Saturday's gone, sometimes he thinks that he's on his way, but I can see that his brake lights are gone. And he just wanders around, unaffected by the winter winds, yeah. And he'll pretend that well, he's somewhere else, so far and clear. About 2,000 miles from here.
I now am losing my English, and I'm starting to make the same mistakes that French people make when they speak English. What I do now is I take fucking French words, I make them English, and I think that they're English words. But they're not English words. All the time! This show, So British ou Presque, the original title that I had in my head was Re-Becoming British. It's a great fucking title. Until I asked my friends in England, I'm like, guys, what do you think about the title Re-Becoming British? They're like, Paul, you're a fucking idiot. Because re-becoming is not an English word. Oh. Mais en français, tu deviens et tu redeviens. Bah, you become and you re-become, no? No, Paul, you're an idiot. You become and then you become again. Ah. To become again British is a shit title for a show.
Petit extrait en sol majeur de votre nouveau spectacle So-British ou presque, Paul Taylor. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de traduire, vous faites le job.
Ouais, ça dépend des moments, ouais.
Titre parfait, So-British ou presque, et je me demandais évidemment s'il y avait une histoire, comment il était né ce titre. Ben, on a la réponse.
Ouais, c'est exactement ça, et c'est une vraie histoire. C'est que je voulais l'appeler Re-Becoming, et puis c'est comme c'était pas un mot anglais. Mais j'allais presque garder le titre quand même parce que ça aurait fait une blague dans le spectacle. Mais bon, ça l'a fait quand même.
Donc vous êtes dans un processus de francisation.
C'est ça, ouais. C'est très bien. Mais c'est quand je rentre en Angleterre maintenant que j'arrive plus à parler correctement parce que ma vie, elle est devenue française. Mon travail est quasiment en français tout le temps. Tout le monde autour de moi est français. Ma femme est française. Ma petite, elle parle français. Mais bon, moi je lui parle en anglais, donc c'est le seul moment entre guillemets de ma vie en France où je parle anglais, c'est avec elle.
Petit acte de résistance, ouais. Quand même. On va y venir évidemment à ce spectacle et à votre métier de comédien de stand-up, hein, c'est comme ça qu'il faut dire. Mais d'abord, on retourne sur la pelouse.
It's towards York, it's 2-2. York, it's skipped through, it's Dwight York, it's brought down by Peruzzi, Cole will finish it off.
Oh, bloody hell. But never given. That's the winner.
Et comme entre deux.
J'étais tranquille, j'étais peinard. Accoudé au flipper, le type est entré dans le bar. A commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi. Puis il m'a regardé comme ça. T'as des bottes, mon pote, elles me bottent. Je parie que c'est des Santiago, viens faire un tour dans terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo. Je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles.
Ah ouais, c'est un peu la BO entre deux de ouais. Votre enfance. Pourquoi Manchester United et pourquoi Renault?
Alors, Manchester United, je ne sais pas comment on le prononce en français. Manchester United.
Je me débrouille, vous vous débrouillez. Ouais. Attends, on va faire comme ça.
Ça marche. Bah, c'est peut-être plus facile de commencer avec Renault parce que j'étais plus jeune. Quand j'étais exposé à Renault, j'ai vécu en France entre l'âge de 4 et 9 ans.
Exposé à Renault.
Ouais, je ne sais pas si ça se dit.
Ça peut entraîner loin, cette affaire. Ouais. Allez-y.
Entre l'âge de 4 et 9 ans, j'habitais en France avec mes parents. Et ma mère, elle écoutait Renaud. Elle aimait beaucoup ça. Elle ne parle pas français. Et en fait, je ne reconnaissais pas la chanson.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'en en fait, il y a un truc, une mémoire de mon enfance qui sort quand j'entends sa voix.
Mais laisse béton, ça ne vous évoque rien, quoi.
Alors, laisse béton maintenant, à l'époque, non. Mais maintenant, j'ai compris que c'est du verlan. Et ça, c'était quelque chose qui était compliqué.
Un grand garçon aujourd'hui.
Ouais. Et donc, je reviens en Angleterre quand j'ai 9 ans. Et comme tous les petits Britanniques, j'étais obligé, pour m'intégrer, de suivre le foot. Parce que c'était comme une religion quand on est enfant en Angleterre. Et donc, il fallait que je choisisse une équipe. Et je ne sais pas pourquoi j'ai choisi Manchester United. Parce qu'on n'était même pas basé là. On était basé dans le sud-ouest de l'Angleterre à l'époque.
Donc, naissance à Canterbury, comment vous prononcez-vous?
Canterbury, ouais.
Mère irlandaise et donc père anglais. Est-ce que d'office, ça veut dire que vous êtes né dans une sorte de double culture, Paul Taylor?
Oui, mais je me rends pas vraiment compte tout de suite. Comme j'ai grandissé dans une troisième culture en France, j'étais pas forcément au courant que ma mère et mon père venaient d'un endroit différent, vraiment, à part leur accent. Pour moi, c'était les mêmes, en vrai. Mais je crois que c'est parce que ma mère, elle a beaucoup vécu en Angleterre aussi. Elle a quitté l'Irlande du Nord. Donc déjà, c'est l'Irlande du Nord, donc c'est britannique quand même. Mm-hmm. Donc déjà, c'est plus proche que la République. Et comme elle a vécu beaucoup de temps en Angleterre, je crois qu'elle ne m'a pas vraiment donner cette culture irlandaise. Donc c'est pour ça que dans le spectacle j'en parle, que je me sens pas vraiment irlandais, même si j'ai les papiers.
Et pourquoi le gamin se retrouve à crapahuter en France alors, tout jeune ?
Crapahuter.
J'étais sûre que vous alliez bloquer ça.
Je l'ai déjà entendu, mais normalement on dit c'est pas quand on est sur le tapis et puis on crapahute.
Si vous voulez, ouais. Ça se voit que vous êtes papa. Pourquoi vous vous retrouvez à vous balader en France tout jeune ?
Mon père, il travaillait dans l'informatique, dans les banques, développeur de logiciels pour les banques. Et quand j'avais 2 ans, il a eu un poste à Genève. Et ensuite, on a traversé la frontière. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'était moins cher.
Il y a des petites enquêtes familiales à faire.
Ouais,
même,
c'est
hein.
ça.
À part Renaud, alors, quelle référence culturelle vous gardez de la France de cette enfance ?
C'est difficile parce que on regardait la télé anglaise, on avait le parabole pour avoir Sky TV.
La parabole.
La parabole, merci.
On est déjà dans votre spectacle.
Parce que pour moi, on dit satellite, et donc j'allais dire satellite, mais j'ai appris récemment qu'on ne dit pas satellite, c'est satellite. Anyway.
Quelle référence française ?
Le seul vraiment que je me souviens, c'est le magasin, le supermarché géant, qui était loin de la maison, mais on le voyait, on habitait dans un petit village, et notre maison donnait sur un champ, et derrière le champ, il y avait une route, et derrière la route, il y avait géant. Pour moi, c'était de la magie, je voyais la voiture partir de la maison, et c'était parce qu'ils allaient à géant.
And that's all, folks. No book français, no lullaby française.
Non, les lullabies français, je les ai maintenant parce que il y a que ça à la maison avec la petite. Mais à part ça, les livres, on n'était pas très livres à la maison. On n'était pas très musique, on n'était pas très intéressant.
Enfance traumatisée.
Non, même pas. En grandissant, c'était ou la télé ou les jeux vidéo. Mm-hmm. Donc j'ai des souvenirs, mais pas de références françaises.
Donc si on résume pas de lecture, les seuls livres en fait que vous lisez aujourd'hui d'ailleurs, hein, Paul Taylor, vous me l'avez confié, ce sont des biographies par exemple, des biographies de grands quelqu'un, comme on dit sur le continent africain, qui nous écoute beaucoup.
D'accord.
Comme Will Smith ou encore votre ex-patron.
We have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic.
Col roulé noir, presque aussi emblématique que le logo de la pomme croquée. Est-ce que vous reconnaissez le style du boss, Paul Taylor ?
Oui, Steve Jobs ou Stéphane Travail.
Ah, ça, je ne l'avais jamais entendu encore. Si la méthode assimile peut assimiler,
oui,
justement,
ouais.
On y reviendra. Durant vos années chez Apple, est-ce que vous l'avez croisé d'ailleurs, le grand boss ?
Oui, je l'ai croisé 2 fois. Bon, les deux, c'était dans le magasin que je travaillais à Londres, sur la rue Regent Street. À l'époque, c'était le plus grand magasin au monde. Et moi, j'étais vendeur temps partiel pendant mes études. Et un jour, il rentre. Et évidemment, pour nous, c'est la star. C'est comme si Brad Pitt, il rentre dans ton café local. Tu fais « Oh non, Steve Jobs, oh my God !»
Oui, il a révolutionné notre monde, hein, il faut
oui.
le dire. Mais qu'est-ce que vous avez appris, vous, personnellement, au pays de Steve Jobs ?
Wow, tellement de choses.
Qui vous servent aujourd'hui dans votre métier de comédien ?
Mon côté maniaque pour les détails.
Par exemple ?
Quand je fais mes spectacles, l'expérience client, comme on appelait ça chez Apple, l'expérience client, pour moi, il est hyper important dans le théâtre, dans le sens où quand j'arrive en tournée ou dans une salle, j'aime bien voir un peu le parcours que le public a en rentrant, où ils sont accueillis, comment ils sont accueillis, où est la billetterie, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avant le spectacle pour les mettre dans l'ambiance du spectacle.
Et il y a un service après-vente alors, une fois qu'on a vu votre spectacle, on peut...
On peut appeler, et moi je donne mon numéro de téléphone, et puis après je réponds, service après-vente,
hein.
Bonjour. Donc ouais, c'est ce côté détail que, en vrai, je crois que les gens des fois autour de moi, ils pensent que je suis fou. Et c'est probable que je le suis, mais je trouve que les détails sont importants des fois.
Bref, vous êtes un humoriste, et vous le dites assez volontiers, qui a eu une vraie vie avant.
Mmh.
C'est un plus ?
Ça peut être un plus et ça peut être un moins, dans le sens où, des fois dans ce métier, j'ai l'impression qu'il faut être un peu une diva des fois, pour avoir ce qu'on a envie d'avoir. L'avantage, c'est que je suis humble un peu, et je fais pas la diva, mais des fois ça me dessert parce que j'obtiens pas ce que j'avais envie ou ce que j'ai besoin. Ou
Faut mettre le curseur au bon endroit. Je vous traduirai.
Et voilà ta bière.
Thanks very much, cheers.
Et dis-moi, en fait, pour un anglais, t'as pas du tout d'accent, en fait.
Ouais, c'est un peu bizarre, c'est une histoire un peu longue. Je te la raconterai plus tard. Je peux la prendre dehors, il y a des amis qui m'attendent.
Bien sûr.
Ouais, cool. Cheers, man. Thanks. See you later.
あなたに尋ねます。あなたはどこから来ましたか？そしてあなたは何と答えますか？
Lorsque j'étais écolier, sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois.
Quand on vous demande d'où êtes-vous, que répondez-vous ?
Anglais.
Point.
Ouais. Et après, le reste, évidemment, est beaucoup plus compliqué. Oui. Je suis anglais-irlandais qui habite en France et qui n'est pas français papier, mais un peu français quand même, dans le cœur.
Alors ça, c'est ce qu'on entendait là pour En Sol Majeur. C'était le début de votre premier spectacle franglais.
C'est ça.
Avec ce clin d'œil que vous faites à Charles Trenet, au clocher et aux maisons sages, avec notre douce France, que vous pourriez fredonner d'ailleurs, cette chanson.
Je la connais pas à 100%, mais j'aimais bien le concept de douce France, cher pays de mon enfance, parce que c'était
le
pays de mon enfance. Ça paraît bizarre juste à écouter le début du spectacle, mais c'est pas un spectacle. Mais en vrai, c'est parce que je suis de l'autre côté de la rue, je prends une bière.
Vous filmez les coulisses, votre entrée dans le spectacle.
C'est ça.
Quand on vous demande d'où êtes-vous, que répondez-vous, en fait, c'est un peu le sujet de vos deux spectacles. Ce premier-là, dont on va dire un mot et entendre quelques extraits, franglais, il est né comment ?
Le concept, il est né d'une question que je me posais pour me dire, est-ce que je fais un spectacle entièrement en français ? Pour les francophones, entièrement en anglais pour les anglophones, ou est-ce que je fais un spectacle dans les deux langues où il y a plus ou moins 50% en français, 50% en anglais, parce que c'est ma vie en fait. Et à chaque fois que je pense à quelque chose de drôle, souvent c'est lié au fait qu'il y a un malentendu dans la langue ou quelque chose comme ça, et je me suis dit, je vais tenter. Tout le monde me disait, mais t'es fou, ça va pas marcher, il n'y a pas assez de français qui parlent anglais, donc tu vas restreindre ton public.
Et ça a marché.
Et heureusement pour moi, je ne sais pas pourquoi, ça a marché. Ouais.
En fait, ça a commencé pour vous en faisant le buzz avec une petite série autour des us et coutumes. Hein. Vous avez rapidement observé nos maladresses coutumières, on va dire. Et quelque chose, par exemple, qui vous agace férocement, c'est cette satanée bise française. Et c'est vrai que c'est un peu l'enfer, cette question-là.
Oui, c'est vrai. C'était une des premières observation que j'avais fait sur la culture française, que je me souvenais pas de ça quand j'étais petit, mais quand j'ai rencontré ma femme à l'université à Londres, elle avait un groupe d'amis français. Je voyais comment ils interagissaient pour se dire bonjour, et en tant qu'anglais, on trouve ça un peu bizarre. C'était un des premiers sketchs, et ça a bien marché, parce que je me suis rendu compte que c'est pas juste moi qui trouve ça bizarre, c'est vous aussi. Vous savez pas de quel côté il faut commencer, combien de bises il faut faire. Le Covid a un peu changé ça, mais c'est devenu encore plus compliqué, parce qu'on ajoute à la bise le check avec le point, ou est-ce qu'on se serre la main, le coude.
Fille, garçon, garçon-fille, enfin oui.
C'est ça, il y a tellement de règles.
Alors après, la première inévitable question, mais comment ça se fait que tu parles aussi bien notre langue, Paul ?
Ouais.
Vous poursuivez sur un peu ce qu'on pourrait appeler la méchanceté de cette langue française.
Si la langue, elle est compliquée pour vous, pour nous, elle est impossible à maîtriser à 100%. Donc, je fais des fautes, je continue à faire des fautes, mais des fautes de base. Je fais pas les mêmes fautes que vous, les francophones. Moi, je fais des fautes de base, des fautes d'anglophone, en fait. Mais les fautes d'anglophone sans l'accent anglophone, ça passe pas du tout. Et je me suis rendu compte que les Français, quand je fais des fautes de base avec cet accent-là, vous pensez pas que je suis anglais, qui parle très bien français. Vous pensez que je suis français, mais con. Et je vois la tête des gens devant moi qui bug, ils savent pas, ils sont là, je comprends, ils savent pas pourquoi je fais des fautes sans accent. La première fois que j'ai vu quelqu'un bugger devant moi, c'était dans une boulangerie où je suis rentré, j'ai dit, bonjour madame, je vais prendre une baguette, deux pains au chocolat et une croissance s'il vous plaît. Fuck you. Ouais, parce que la femme, elle a bugué, elle a rigolé, elle a fait, une croissance, une. Geneviève, viens par là, il y a un teubé et on va se moquer de lui.
Des fautes d'anglophone qui signent votre premier spectacle franglais, Paul Taylor, avec, pour le côté onomatopée, j'ai pensé immédiatement à Gad Elmaleh. Vous voyez qui est Gad Elmaleh ?
Oui, je vois qui est Gad Elmaleh, mais...
Est-ce que c'est une inspiration pour vous ?
Pas du tout.
Pas du tout ?
Non. En fait, j'ai commencé l'humour avant de le connaître.
C'est une autre génération, quoi.
C'est une autre génération.
C'est un vieux.
Si vous voulez, c'est un vieux. Mais en vrai, les humoristes qui sont des références pour moi, ils sont aussi vieux que lui. C'est juste que j'ai pas, entre guillemets, grandi avec ses sketchs, je les connais pas, donc je peux pas être inspiré par un truc que je connais pas.
On est de nouveau dans la question des références.
Yes.
Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que vous soignez bien les créateurs de la méthode Assimil, parce que vous... Effectivement, vous faites des fautes d'anglophones, mais les Français eux-mêmes ont une méthode pour apprendre l'anglais qui est catastrophique, puisqu'on a tous été gavés par cette fameuse première phrase incontournable « My Taylor is rich », et vous lui faites un sort.
Oui, alors c'est plus le cas, cette blague ne fonctionne plus, parce qu'on reparle de vieux, parce que la nouvelle phrase dans ces bouquins-là, c'est « Where is Brian ?» Lorsque avant, les premiers livres à 6000, c'était « My Taylor is rich ». Et j'ai appris ça parce que quasiment à chaque fois que je rencontrais des gens, la première année que j'étais ici, on me faisait la blague « Oh, my Taylor is rich » et je ne comprenais pas pourquoi il disait ça.
On a bien avancé « Where is Brian ?»
Ouais.
C'est quand même beaucoup mieux. Facile à placer hein, dans une conversation,
oui.
Forcément.
Bah, plus facile que « My Taylor is rich » parce qu'en vrai, qui a un tailleur personnel? En vrai.
Alors, vous faites des fautes d'anglophone, mais en fait, votre problème à vous, c'est quand même d'assumer le fait de passer pour un con.
Mmh.
Ou pas.
Ouais, ça dépend des jours et des situations. Là, ça redevient un peu embarrassant en public parce que maintenant que j'ai une petite et qu'on va au parc ensemble, des fois, je fais des fautes et les gens au parc, ils savent pas qui je suis forcément. Donc, du coup, ils entendent un papa français, visiblement, qui parle à sa fille, mais incorrectement, avec du français pas correct. Et donc, ça me gêne. Je sais pas si je vais surmonter ce problème. C'était pas le mot que je cherchais, mais je crois que toute ma vie, je vais avoir cette angoisse dans moi, en public, de faire des fautes. Mais comme tous les apprenants de langue, quand je parle à n'importe qui, ils veulent pas pratiquer l'anglais avec moi ou ils ont honte de pas le parler parfaitement et moi, c'est pareil.
Donc c'est pas seulement un ressort comique, cette affaire.
Non, ça. Bah, en fait, c'est quand on raconte un peu notre vie sur scène, forcément, les choses qu'on utilise, c'est des moments embarrassants ou des peurs qu'on a et on rend ça drôle comme une façon de surmonter l'angoisse et ce qu'on est en train de sentir à l'intérieur.
Ouais, un peu une thérapie, quoi.
Oui, ouais.
Alors, ce que vous racontez dans Franglais, plus loin dans le spectacle, Paul Taylor, c'est qu'à un moment de votre vie, vous êtes parti améliorer votre français. Où ça? Au Québec. Franglais, suite.
Je me suis rendu compte très vite que partir au Québec, s'améliorer en français, c'est un peu comme partir en Angleterre, s'améliorer en cuisine. On a les mêmes ingrédients, mais on fait n'importe quoi avec. Et à l'époque, pour financer mes études, je travaillais chez Apple dans les Apple Store. Et mon poste à l'intérieur de l'Apple Store, c'était la personne qui est responsable pour les clients en colère. Sauf que les Québécois en colère, j'étais pas du tout prêt pour ça. Le premier jour, j'arrive, il y a un client énervé qui vient me voir. Il a un iPod dans sa main, il vient me voir et il me fait « Ben là là !» Et là, tout de suite, j'étais perdu. Tout de suite, j'ai aucune idée de ce qui se passe. C'est pas du français pour moi. Donc j'écoute, il me fait « Ben là là, cette affaire là là, ça marche-tu chez Windows, calice ?» Parce que tabarnak, j'ai pogné, c'était mal de là, c'était dispendieux, hein, Chris, ça marche pas entre toi là, tu vas m'arranger ça tout de suite, OK ?»
Qu'est-ce qu'une langue et qu'est-ce qu'une identité, au fond? C'est ce que vous posez comme question, Paul Taylor, sur scène.
Ouais, c'est la conclusion sur laquelle j'ai arrivé. Non, c'est pas du tout... c'est la conclusion que j'ai eue.
À laquelle
je suis arrivé par rapport à mon identité. Je raconte ça dans le deuxième spectacle, pourquoi je me sens anglais. Et c'est lié, pour moi, à l'accent et à la langue qu'on parle. Parce que forcément, si on a un accent... de quelque part, moi, quand je parle anglais, je peux pas dire que je suis irlandais avec ma voix anglaise, ça marche pas. Comme un Québécois, enfin quelqu'un qui parle avec un accent québécois pourrait pas dire « Ouais, je viens de 14e arrondissement de Paris ». Je dis « Il y a un problème avec ton accent, ça matche pas ».
Mais faut se détendre, hein, parce que... Non, mais je sens que vous tiquez sur vous-même et sur les fautes potentielles que vous pouvez faire, mais en même temps... Vous le vivez vous-même. L'identité, c'est quelque chose qui est perpétuellement en mouvement et en évolution.
Oui.
Il y a un morphing à l'infini qui se fait. Ouais. Donc vous êtes en train d'inventer votre propre identité. Comment vous vivez-vous cette gymnastique sur scène de passer constamment de l'anglais au français?
Je le vis assez naturellement. Les blagues que j'écris, soit elles sont en français, soit elles sont en anglais, par rapport à ce que je raconte. Donc, quand je parle du fait que j'oublie mon anglais et maintenant je prends des mots français et je les anglicise, ça c'est un mélange des deux parce que forcément je vais dire le mot français indispensable et ensuite je vais le dire en anglais indispensable. et des fois il y a des anecdotes qui m'arrivent que en français où je raconte ça en français. Donc c'est assez naturel, j'y pense pas trop. Sauf de temps en temps... où je me rends compte que le public, soit ils sont pas assez anglophones ou ils sont pas assez francophones. et je fais le switch d'essayer de traduire sur le, sur le moment. L'exemple que j'ai en tête, c'est de la dernière fois que j'ai fait Londres. Je l'ai fait deux fois dans la même soirée et je me suis rendu compte que le premier public, il rigolait pas assez fort à la première histoire que je raconte qui est en français. Je me suis dit, il y a peut-être un problème de niveau de français. Parce que je crois qu'il y avait beaucoup d'anglophones sur la première soirée. Et donc, du coup, j'ai fait plus en anglais que d'habitude ce soir-là.
Donc, on est toujours le con de l'autre. Enfin, dans votre public, il y a aussi ce que vous vivez vous-même, vous voyez.
Oui,
ils le vivent aussi. Comment vous avez appris votre métier de comédien de stand-up ?
En le faisant. C'est vraiment un métier... C'est comme conduire une voiture où on peut lire des livres et faire de la théorie sur comment écrire une vanne, comment structurer un spectacle, mais du moment où on ne monte pas sur scène, parce que comme on se livre nous-mêmes, on ne joue pas un personnage, on joue nous-mêmes, donc c'est encore plus compliqué de se dire « Ok, je vais apprendre le texte par cœur et mes gestuels et tout ça », mais comme on monte sur scène un peu à nu, bah, en fait on oublie tout et on devient très renfermé sur nous-mêmes, timide. En fait, on passe 5-10 ans à retrouver notre voix normale.
Alors, vous dites qu'évidemment, vous êtes vous-même sur scène, c'est pas un personnage véritablement, mais est-ce qu'il y a quand même des règles d'écriture et de jeu ?
Peut-être, mais je les connais pas. Enfin, je crois qu'il y a une règle où ouais, ils doivent rigoler tous les 7 secondes ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est des trucs... Il y a des livres sur le stand-up et comment écrire des blagues avec... en anglais, on dit « set-up and punchline ». Pour moi, c'est plus des anecdotes. C'est pas des blagues-blagues. Mm-hmm. C'est des anecdotes drôles.
Et vous voilà donc marié aujourd'hui, papa, un peu plus enveloppé, hein, semble-t-il, avec votre deuxième spectacle « So British ou presque ». Alors, quelle évolution ?
Le premier était vraiment plus axé sur la langue et le deuxième est plus axé sur l'identité et aussi les périples d'être un nouveau papa, nouveau parent. Et donc forcément ça a changé parce que le spectacle je l'ai écrit un mois après la naissance de la petite. Maintenant elle a 3 ans, donc du coup les anecdotes changent par rapport à un spectacle traditionnel entre guillemets où la langue française, elle change pas. Donc les blagues, elles peuvent rester pareilles, mais
la langue française, elle change pas, vous croyez ?
Alors, elle change bien sûr, mais elle change pas aussi vite qu'un enfant.
Signe particulier de So British ou presque, vous êtes pas inquiet, mais pas à l'aise. Il faut voir le spectacle.
Le seul truc difficile pour moi, c'est qu'en tant qu'Irlandais anglais, j'ai décidé de marier une Française parisienne d'origine corse. Et Ouais. On est ensemble depuis 10 ans, pas parce que je l'aime, parce que j'ai peur. Depuis 4 mois, je suis papa. Là, en fait, je suis en vacances avec vous. Là, pendant 1 heure, je suis en vacances. La petite, elle pleure, elle se plaint. She complains. Oh, c'est une Parisienne. Et je sais que les premiers mots qui va sortir de sa bouche, c'est « Ah, papa, tu m'as acheté des jouets en plastique. C'est pas très éco-responsable. Shut the fuck up !» But French people like my Paul, ça fait 10 ans que t'es en France, tu te sens un peu plus français ? Non. Même si je parle très bien français, je m'en rends compte que j'ai pas les références françaises. J'ai aucune référence culturelle avant 2009. Et je me rends compte de ça quand je suis dans des soirées avec des Français. Ils me parlent des personnalités, des pubs mythiques, des séries mythiques, des films. J'ai aucune idée. Jacques Chirac, il est mort récemment. Je savais pas qui c'était Jacques Chirac. Par contre, Kenji Girac, je vois très bien qui c'est. Il a gagné The Voice en 2014. J'étais là, je connais qui c'est.
Le teaser de Paul Taylor dans le fauteuil dans Sol majeur est sur la scène de l'Européen, c'est à Paris et ce sera en juin. Je remarque que vous avez toujours une bière à la main. Est-ce que vous finissez un peu pompette au spectacle ?
Non, en général non. Une bière, ça suffit pas pour me rendre pompette. Mais ouais, j'aime bien, je sais pas, c'est réconfortant.
Convivial.
Oui, c'est convivial, j'ai envie de donner l'ambiance qu'on est dans un pub ensemble et puis on rigole tous ensemble.
Donc vous voilà marié à une Corse. Est-ce que vous avez découvert cette fameuse île de beauté ?
Oui,
et île son de beauté. Histoire aussi.
Oui, un peu. Et donc je sais que c'est tendu, mais en vrai, il m'accueille ouvertement parce que moi aussi, je viens d'une île. Enfin, je viens de deux îles, l'Irlande et l'Angleterre. Et donc du coup, il y a un truc.
Les insulaires se reconnaissent.
C'est ça. Ouais. Et ce que j'adore aussi, c'est que entre guillemets, c'est protégé. C'est pas comme les îles espagnoles où il y a des hôtels énormes sur toutes les plages. C'est une autre ambiance qui est très sympa aussi, mais j'aime bien le côté un peu j'allais dire sauvage, mais c'est pas le nature.
Authentique.
Authentique.
Ouais. Donc marié, papa. Mm-hmm. Et Between You and I, il y a beaucoup de fuck-off dans votre spectacle, dites donc.
Ouais, c'était la colère. En fait, les extraits qui sont là, ils datent de 3 mois après la naissance de la petite. Donc je crois qu'il y avait une...
C'est lié ?
Et je crois, ouais. Je crois qu'il y avait une... Pas forcément une colère, un peu une colère, mais aussi le côté désespéré d'être un nouveau parent.
Parce qu'effectivement, vous expliquez que bon, c'est un moment merveilleux, la paternité, la maternité, etc. Mais on vous a caché quand même beaucoup de choses. C'est un peu une arnaque, cette histoire.
Ah, une arnaque, c'est bien joué, ouais. En fait, oui, c'est une arnaque parce qu'on n'est pas prêt du tout. Et les parents qui sont parents maintenant disent « Ah ouais, c'est un peu dur au début. » Et forcément, quand on n'est pas parent, mais on a des amis parents, on voit leurs enfants pendant 1h30. Et donc, on se dit « Ah, ok, ça peut aller. » Mais quand tu les as 24 heures sur 24, c'est une autre histoire. Et malheureusement, on n'a pas de famille pour nous aider. Donc, en vrai, c'est ça qui nous a détruits, en fait. Ouais. Et une autre phrase que nous disaient les parents, qui est vraie, c'est que les problèmes... disparaissent pas, c'est pas les mêmes problèmes.
Petit, petit problème, grand, grand problème.
Oui, ouais.
Devise parentale.
Ouais.
Au chapitre des colères, on découvre aussi dans votre tête de Britannique, alors une vraie colère, mais alors qu'on peut partager contre les banques françaises.
Ouais, effectivement. Plusieurs choses. Déjà, créer le compte, c'était un enfer pour moi. Je pensais que c'est parce que j'étais étranger, mais en fait, c'est pareil. C'est même pas l'administration française, parce que c'est des trucs privés. Mais ça rend fou, comme l'administration française, où pour créer un compte, il faut un justificatif de domicile. Mais pour avoir le justificatif de domicile, il faut la facture EDF. Et mais pour payer la facture EDF, il faut le compte bancaire pour payer la facture. Donc ça a pris un peu de temps. Et en vrai, ce qui s'est passé à la fin, c'est que la grand-mère de ma femme a écrit une lettre à la main pour dire à la banque que j'habitais chez elle et c'était le justificatif de domicile. Donc ils préféraient une lettre écrite par une femme de 96 ans qu'un document.
Il y a un problème ?
C'était incroyable.
Et toujours la question lancinante de savoir, en vous écoutant sur scène, si vous vous sentez pas un peu plus français maintenant que vous y vivez depuis longtemps, Mr. Taylor. Taylor. Vous qui reconnaissez que, je vous cite, « La langue, c'est une grande partie de l'intégration. Si on ne l'apprend pas, on passe à côté de son histoire. »
J'ai dit ça.
Vous avez dit ça.
Ça a l'air beaucoup trop intelligent pour moi.
Vous avez 2 heures, là. Et donc, non, c'est pour dire un mot de ce gros mot, l'intégration.
Ouais.
C'est un mot qui sonne pas pareil, hein, d'ailleurs, si on est anglais ou si on est syrien, malien ou camerounais. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, bien sûr.
Mais est-ce que vous la souhaitez, vous, cette intégration en France ?
Pour moi-même ?
Bah oui, pour vous-même.
Bah, je crois que c'est déjà fait.
Ah bah, je sais pas, parce que vous dites, bah oui, mais non, parce que j'ai pas les références.
Oui, alors je serais jamais intégré à 100%. Oui, je me sens étranger ici, mais je me sens pas non plus étranger en même temps. Et en grande partie, c'est grâce à la langue. Un de mes meilleurs potes ici, il est prof d'anglais. Ça fait 10 ans qu'il est ici, il parle pas un mot de français. Il parle anglais pour son travail, à la maison, il parle anglais avec sa femme, il parle anglais avec sa fille. Donc toute sa vie est en anglais en France. Et c'est en le voyant que je comprends mieux. Enfin, j'empathise avec des gens qui viennent de l'étranger
c'est
en
joli,
France.
C'est joli, j'empathise. Hein, ça
n'existe pas,
non,
empathiser ça,
non, non. J'ai de l'empathie.
Ah, j'ai de l'empathie
Je compatis.
D'accord. Ah, c'est peut-être pour ça que vous êtes toujours en colère, parce que vous n'avez pas le verbe empathiser.
Il doit y avoir de ça.
C'est normal que tout le monde est en colère contre le gouvernement et ces étrangers qui viennent voler nos boulots. C'est parce qu'on n'a pas le mot empathiser. Je l'ai créé, voilà, l'Académie française, si vous écoutez ça.
So British ou presque, qui va partir en juin à Londres.
Yes.
Vous avez déjà vécu cette expérience de jouer sur une scène londonienne ou anglaise ?
Ouais, je l'ai fait l'année dernière au mois de juillet. Et c'est assez incroyable parce qu'il y a beaucoup de Français à Londres. Je crois qu'il y a 350 000 Français, un truc comme ça. Qui est en vrai la population de Bordeaux. Donc il y a autant de Français à Bordeaux qu'à Londres. Ouais. Le maire de Londres à l'époque, qui est Boris Johnson, qui est maintenant le Premier ministre, il a fait une blague au maire de Bordeaux à un moment donné pour dire « En fait, moi, je suis maire de plus de Français que toi. » Et donc, du coup, quand je joue là-bas, c'est incroyable parce que c'est le même spectacle.
Vous ne changez rien ?
Non, à part cette fois où je sentais qu'il y avait peut-être plus d'anglophones que d'habitude. Donc j'ai changé quelques blagues en anglais, mais ce qui est bien là-bas, c'est que bah, les Français parlent anglais, enfin ils comprennent l'anglais. Mm-hmm. Et comme c'est eux, c'est des expats en Angleterre, et moi je suis un expat en France, ça tape encore plus fort. Ils comprennent ma vie en fait, parce qu'ils sont en train de vivre la même chose.
Vous êtes un mal-aimé, vous vous sentez un mal-aimé, Paul Taylor, je le sens. Alors, vous avez beaucoup de références hein, dans le stand-up. Le dernier en date dont vous m'avez parlé, c'est l'Américain Sébastien Maniscalco, qui est excellent, effectivement. Mais je me suis dit, puisque vous n'avez pas été biberonné aux références françaises, en sol majeur va réparer ça avec un petit extrait d'un spectacle de deux comiques français.
Okay.
Des années 50-60, à la guerre comme à la guerre. Alors, j'aimerais bien que vous écoutiez vraiment attentivement, puis vous nous direz après si ça vous parle. C'est un sketch très connu des Français, de notre génération, on va dire aussi. La séance de fausse voyance avec le rondouillet Francis Blanche qui questionne Pierre Dac, grimé en Madame Arnica.
Madame Arnica, alors répondez brièvement, n'est-ce pas, mais répondez vite. Voulez-vous me dire quel est le signe zodiacal de monsieur ?
Monsieur est placé sous le signe zodiacal du lion et du slow fox à poil dur.
Oui. Quel est son caractère?
Impulsif et simultané.
Oui, et son avenir?
Monsieur a son avenir devant lui, mais il aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour.
Ah ben voilà, ça c'est très clair, n'est-ce pas? Alors dites-moi, Madame Arnica, voulez-vous à présent, alors, me dire quel est le signe zodiacal de mademoiselle?
Mademoiselle est placée sous le triple signe zodiacal de la Vierge, du Taureau et du Sagittaire avant de s'en servir.
Ah. Dites-moi, quel est son avenir?
Son avenir est conjugal et prolifique.
Prolifique, elle aura des enfants?
Oui, des jumelles.
Des jumelles, combien?
Une paire.
Une paire.
Avec la courroie et l'étui.
Une paire de jumelles avec la courroie et l'étui, il est extraordinaire. Bravo, madame Arnica.
Those were the days. C'est daté, c'est vrai, mais c'est pas gâté, comme on dit sur le continent pour les Français. Votre réaction à chaud, Paul Taylor?
Drôle. La dernière blague, j'ai pas compris. The.
Avec la courroie, il aura des jumelles. Donc les jumelles, vous voyez, c'est aussi.
C'est pour voir. Okay. Les jumelles, mais courroie?
La courroie, c'est ce qui permet d'attacher.
D'attacher les jumelles. C'est pour ça que j'ai pas compris le jeu de mots, parce que j'ai pas compris le mot.
Revient à des histoires de vocabulaire. Mm. Ça tient à pas grand chose. Hein.
Ouais, et il y avait une blague au début que j'ai pas comprise non plus.
Mais c'est pas grave.
Non, c'est pas grave, parce que j'ai rigolé quand même.
Alors, on est d'accord que l'humour, c'est quand même un référent identitaire. Hein.
Oui, c'est très local. C'est pas très global. À part quelques Américains qui ont réussi à faire leur carrière un peu à l'international. Les Anglais, les Britanniques, personne ne les connaît.
Ah oui, vous pensez que c'est lié à quoi?
C'est lié aux références. Quand les humoristes américains parlent de la société américaine, on la comprend.
On a quand même des références.
Ouais, lorsque, en Angleterre, on a quelques films et quelques séries qui sont là, mais on n'a pas l'ADN, la fabrique de la société exposée, à part si on y habite.
Allez, pour refermer cet ensemble majeur, je vous emmène au pays du oui ou non ou du chaud ou froid.
Every year, we herald the coming of Christmas by turning on the lights. And light does more than create a festive mood. Light brings hope. In the United Kingdom and around the world, people have risen magnificently to the challenges of the year. And I'm so proud and moved by this quiet, indomitable spirit. To our young people in particular, I say thank you for the part you have played.
Le peuple français a fait le choix d'un projet clair et explicite d'avenir. Un projet républicain et européen. Un projet d'indépendance dans un monde déstabilisé. Le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève, commencé le 14 mai 2017. Ce peuple nouveau, différent d'il y a 5 ans, a confié à un président nouveau un mandat nouveau.
J comme j'aime pas.
La reine d'Angleterre.
C'est drôle parce que ça s'entend que c'est... Je ne sais pas de quelle année date ce discours, mais...
C'est récent, c'est pendant le confinement.
Ah bon?
2020.
Ah ouais, parce que j'allais dire, elle a une voix jeune. Mais ouais, la reine, elle est incroyable, elle est toujours là. En fait, pour moi, c'est comme un logo d'une marque.
Vous avez travaillé où ?
Oui, c'est ça. Mais en vrai, c'est ça, c'est le seul pays. Enfin, non, c'est pas le seul pays du tout, mais un peu, dans le sens où c'est la, celle qui a été en pouvoir, mais elle a régné le plus longtemps. Elle, ça fait 70 ans que c'est le visage du pays, même si on a les premiers ministres. Mais à l'international, personne ne connaît les premiers ministres. En vrai, c'est la reine qui est le logo du Royaume-Uni.
Vous en parlez comme d'un logo, mais pas en termes sentimentaux. Il n'y a pas d'attachement.
Non, pas forcément, pas plus que ça. Je crois que c'est la plupart des Britanniques sont comme ça. Elle est là, la famille royale est là, mais il y a une partie de la population qui les adore. Et c'est eux qu'on voit dans les rues avec les drapeaux britanniques pour les mariages et les événements royaux. Mais la grande majorité du pays, je crois qu'ils sont indifférents ou les détestent.
Macron, Emmanuel de son prénom.
Ouais. Est-ce que je l'aime ou je l'aime pas ? C'est difficile, je sais pas.
Vous le connaissez ou pas ? Parce que je sais que jusqu'à récemment, vous connaissiez pas Jacques Chirac.
Oui, mais parce qu'il était président quand j'étais pas là, donc c'est pour ça que je le connaissais pas. Mais non, Emmanuel Macron, c'est dur. C'était dur pour lui, en fait. C'est pareil avec les premiers ministres en Angleterre. Le premier ministre actuel, on l'aime pas. Et on pense que quelqu'un d'autre va faire quelque chose de différent. Et en vrai... Le cycle se répète, il n'y a jamais vraiment de grands changements.
Mais ça veut dire que vous suivez davantage la politique du Royaume-Uni que la politique française ?
Non, du tout. Je ne sais même pas comment fonctionne le Parlement avec les deux maisons, the House of Lords and the Commons. J'ai aucune idée.
Le passeport irlandais ?
J'adore, parce que à cause du Brexit, mon passeport britannique ne fonctionne plus en France. Il aurait fallu... je ne sais pas, un titre de séjour ou demander la nationalité française.
Ah.
Et le casse-tête administratif pour avoir un passeport français était... heureusement, je n'ai pas eu besoin encore pour le faire parce que j'ai le passeport irlandais via ma mère et qui reste un pays européen, donc j'ai le droit d'être là.
Vous avez vécu tragiquement ce Brexit ?
Tragiquement...
Tristement ?
Ouais, tristement plus. Je trouve qu'en général, dans la vie, on est mieux ensemble. Et maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent cette décision.
La salade de chèvre chaud.
Ah, je ne suis pas hyper fan. Une salade, pour moi, elle est froide. Et je n'aime pas le côté chaud et froid en même temps. Le chèvre tout seul, chaud, pourquoi pas. Sur des toasts, sur du pain grillé, ça me va.
La double culture.
Je crois que j'ai pas le droit de dire j'aime pas.
Diable.
Oui, et je trouve que ouais, plus de cultures on a, si on a 5 cultures différentes dans notre famille parce qu'on a grandi dans des... C'est que enrichissant.
Ouais. Vous avez fait un test de culture générale que les étrangers passent pour obtenir la nationalité britannique.
Oui, et j'ai raté. Mais de loin, parce qu'en fait, ce test pour devenir britannique, il y a beaucoup de questions de politique et beaucoup de questions d'histoire. Deux sujets que je ne maîtrise aucunement. Et donc, j'ai raté toutes les questions politiques.
Donc, vous êtes pardonné. En rappelant que So British ou presque est à voir donc, sur la scène de l'Européen, c'est à Paris, les 16, 17, 18, 19 et 20 juin. Et puis, les 26 et 27 juin, vous vous envolez pour London, Paul Taylor. Bah, on va finir en musique, mais là, je dirais que question musique, vous n'êtes pas du tout double culture. C'est très clair, hein, c'est du Beatles, c'est du Queen et du Coldplay qui va refermer son sol majeur.
Ouais.
Il paraît que c'est la musique des filles, Coldplay.
Ah bon ? Peut-être.
Dixit Laura Pinto, notre réalisatrice.
D'accord. Bon, ça, peut-être, pourquoi pas.
Pourquoi Coldplay alors ? Pourquoi que de la musique anglo-saxonne ?
En fait, c'est, encore une fois, c'est une question, c'est comme on dit, pourquoi que des humoristes anglais ? C'est parce que c'est... En Angleterre, il n'y a aucune chanson française à la radio. Lorsqu'en France, il y a beaucoup de chansons anglophones. Et donc, du coup, c'est juste parce que c'est les références, c'est ce qu'on écoute là-bas. Et malheureusement, alors j'aime beaucoup la musique française maintenant, les nouveaux chanteurs et tout ça. Mais ouais, c'est...
Pas au point de...
C'est même pas au point de, c'est juste que Jack Johnson, Coldplay, Queen, c'est tellement ancré dans ma tête d'enfant ou ado... fin d'adolescence, que c'est ça que j'aime bien.
Merci Paul Taylor.
Merci beaucoup. Thank you.
When you try your best but you don't succeed,
When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will
de filles, je sais pas, mais en tout cas assez planante pour un ensemble majeur à réécouter en podcast sur votre application Pure Radio ou bien sur nos réseaux sociaux, vous avez l'habitude, Facebook, Twitter, etc. Ou encore derrière votre poste, ça c'est chaque samedi et chaque dimanche et c'est à 14h10 temps universel, 16h à Paris. Le trio Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous mitonne tout ça, bah tiens, pour demain, autour de Tunde Deck. À demain. L'épopée des musiques.